Bonjour Thomas.
Bonjour.
Cette semaine, l'actualité a été marquée par les suites des attentats de Barcelone et de Cambrils. Outre l'enquête, une réflexion est née autour de la mobilisation des psychiatres dans la lutte contre le terrorisme. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, la souhaite. Les psychiatres apprécient moyennement.
Cette déclaration est consternante pour plusieurs raisons. Les trajectoires individuelles des terroristes sont très variées. Le fait d'avoir été soumis à des difficultés socio-économiques ou d'être passé par un circuit psychiatrique est loin d'être omniprésent. De plus, il a été montré que les patients qui souffrent de troubles psychiques ne commettent pas plus d'homicides que la population générale. Ils en sont en revanche plus souvent victimes. David Gourion, Le Monde, 21 août 2017.
The Conversation a publié cette semaine un article d'un chercheur, Boris Chaumette, Thomas, psychiatrie et terrorisme quand les patients miment les symptômes d'une société.
Oui, la question qui se pose, il y a une polémique qui est née sur est-ce que il s'agit véritablement d'actes terroristes ou d'actes de déséquilibré. On a vu ces phénomènes de voitures béliers à Marseille, en Seine-et-Marne et ailleurs. Alors est-ce que ce sont des actes de même nature ou pas? Le chercheur de l'Université du Québec à Montréal, Boris Chaumette, explique en fait qu'il y a des phénomènes de mimétisme qu'on retrouve à plusieurs époques de différentes natures et qui prennent différentes formes. Il cite le philosophe Michel Foucault qui disait chaque culture a la folie qu'elle mérite, en quelque sorte chaque époque aussi ou chaque société a la folie qu'elle mérite, et peut-être qu'on assiste à un phénomène un peu collectif de mimétisme de ce type d'acte qui passe aujourd'hui par la reproduction d'actes commis par les terroristes. Ce qui est intéressant aussi dans ce texte de Boris Chaumette, c'est qu'il cite des exemples à travers l'histoire. Par exemple, il y a eu un phénomène très étonnant à la fin du 19e siècle qu'on appelait la fugue dissociative, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de personnes qui disparaissaient de chez elles, qui partaient sans laisser de traces et qui revenaient quelques jours plus tard, qui avaient été vivre en quelque sorte une expérience et puis qui reprenaient le cours de leur vie normale par la suite. Et c'est un phénomène auquel on a assisté en Europe à la fin du 19e qui s'est pas spécialement reproduit. De même qu'on parlait beaucoup d'hystérie au début du 20e siècle, hein, on se souvient des travaux de Charcot et de Freud sur le sujet. Et aujourd'hui, l'hystérie, c'est un phénomène qui n'est plus traité, qui n'est plus considéré comme d'actualité par les psychiatres.
Et en même temps, Thomas Hoffnung, dans l'article de The Conversation, il est bien dit « Un patient qui délire n'est pas forcément un djihadiste, mais à l'inverse, est-ce que l'actualité influence les personnes ayant des troubles psy ?»
Oui, alors c'est effectivement c'est toute la question du mimétisme, et l'auteur de l'article explique qu'effectivement dans cette société qui est la nôtre, hyper connectée, hyper médiatisée, où le moindre fait divers fait la une de l'actualité, eh bien ça donne des idées, j'allais dire des mauvaises idées ou des idées morbides à certaines personnes atteintes de troubles psychiatriques qui vont en quelque sorte cristalliser leur folie sur la reproduction de ce type d'acte. On sait d'ailleurs qu'un certain nombre de personnes disent, vous savez, c'est le phénomène j'ai raté ma vie, je vais réussir ma mort, quoi. Je vais tenter un coup qui va me rendre célèbre, entre guillemets. Donc tout ça explique effectivement peut-être qu'il y a ce mimétisme et cette reproduction, cette multiplication d'actes qui, encore une fois, sont plutôt, d'après l'auteur de l'article, Boris Chaumette, des actes d'individus isolés atteints de troubles psychiatriques.
Autre sujet beaucoup plus léger sur le site de Conversation, Thomas, mais néanmoins très sérieux, et là je vous en laisse la primeur. Quelle est la durée normale d'un rapport sexuel? Alors en régie, ils sont nombreux à se poser la question.
Ils ne sont pas seulement dans la régie de France Inter. L'auteur de l'article, qui est un chercheur qui nous vient d'Australie, a pris le soin de mettre le mot normal entre guillemets, parce qu'en fait, il se fonde sur une étude très sérieuse qui a été menée dans 5 pays, dont 3 pays européens, Pays-Bas, Angleterre, Espagne, États-Unis aussi et Turquie. On a demandé à des couples de se chronométrer dans le feu de l'action.
Super.
Et donc oui, c'est pas très romantique. Et en tout cas, ça a permis de montrer que les rapports sexuels pouvaient durer de 33 secondes à 44 minutes. Donc vous voyez que le spectre est très vaste, ce qui aboutit à une durée moyenne de 5,4 minutes, pour être précis. Voilà, donc en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de durée normale. Il y a peut-être une durée moyenne, mais il n'y a pas de durée normale. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a ce que l'auteur appelait des enseignements secondaires de cette étude, qui montre par exemple que le recours à des préservatifs et la circoncision ne changent rien finalement à la durée des rapports. Et puis aussi un autre enseignement, c'est les couples âgés ont des rapports un peu plus courts que les autres et que donc en la matière, l'expérience apparemment n'ajoute rien à l'affaire.
Avant de partir, sale espion, fais-moi l'amour.
Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures.
L'extrait de SS 117 pour le sourire. Merci Thomas Hoffnung du site The Conversation pour votre collaboration cet été. C'était donc Vue du Web avec le site The Conversation.